Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je voudrais traiter un problème que j'ai perçu dans quelques prières et quelques moments de ce que nous avons évoqué là, dans l'adoration, dans ces moments particuliers. Des situations qui sont propres à chacun d'entre nous. Et ce que je voudrais vous demander, avez-vous des problèmes? Alors, je pose la question d'une autre manière. Vous n'avez pas de problème. Alors, si vous n'avez pas de problème, je ne dis plus rien. Mais je suppose que parce que vous avez des problèmes, je vais vous dire quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, on va le découvrir ensemble dans Matthieu, chapitre 8, verset 26. Voilà, simplement un verset, une partie même d'un verset où Jésus dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Pourquoi avez-vous peur ? À vrai dire, nous ne savons pas toujours. Nous ne savons pas vraiment, et nous ne savons pas pourquoi, quelquefois nous avons peur. Eh oui, et c'est ce que nous allons tâcher d'élucider dans ces quelques instants, selon la question que Jésus nous propose. Pourquoi avez-vous peur? Ah, voilà. Et c'est vrai que si on se penche sur le problème, peut-être que cela va susciter en nous non seulement une réflexion, mais peut-être de nous approcher davantage de Dieu. Parce que faut dire que quand Jésus va poser la question à ses disciples, il y a peut-être de quoi avoir peur. Lorsque vous êtes dans la tempête, sur une barque qui prend l'eau de tous les côtés, et que vous vous dites, eh bien, c'est fini pour moi. Et c'est à ce moment-là que Jésus a posé la question, pourquoi avez-vous peur? Si Jésus pose la question à ses disciples, pourquoi ils ont peur, c'est que lui n'a pas peur. Ah oui. Parce qu'à ce moment-là, ils auraient uni finalement leur détresse, tous ensemble, Jésus y compris. Je voudrais simplement préciser en entrée de réflexion, c'est que la peur est une affaire de maîtrise de soi. Mais, restez zen, mais c'est pas toujours facile. Gardez la contenance, gardez nos idées finalement, gardez nos pensées et les maîtriser naturellement, ça c'est difficile. Et la Bible nous répond à tout cela, c'est-à-dire que, en d'autres termes, l'antidote, le remède, c'est tout simplement la foi. Ce que Jésus va dire, pourquoi avez-vous peur? Et il va naturellement donner la raison de leur peur. Gens de peu de foi, il ne dit pas, vous avez pas la foi, mais il dit, vous n'avez pas assez de foi. Vous avez peu de foi. Vous êtes déficient dans votre foi. Il y a un problème, et pourtant, ses amis qui sont sur la barque avec Jésus, ils ont entendu des choses que nous ne verrons jamais, nous, ou que nous n'entendrons jamais de la bouche même de Jésus, parce que c'était les disciples, c'était les proches, c'était les rapprochés. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses extraordinaires, ils ont vu même des morts ressuscités. Alors avec ça, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Je pense que c'est une parole qui pourrait encore s'adresser aux disciples que nous sommes, 20 siècles après que Jésus, est amonesté gentiment ses disciples pour leur dire, mais pourquoi avez-vous peur? Il y a deux sens que nous pouvons donner, en latin, pavor, et en grec, tout simplement, phobos, qui a donné le mot phobie. Et je pense qu'il est bon de le signaler parce que nous allons le voir un petit peu dans la signification, l'étymologie du mot, il y a quelque chose tout à fait particulier. Il y a 4 aspects de la peur. Vous connaissez la peur, non? Oui. 4 aspects particuliers de la peur. Il y a d'abord la peur que l'on éprouve. Elle vient de l'extérieur. On l'éprouve. On l'appréhende. C'est l'affolement, où là, nous perdons notre contenance, nous sommes complètement désemparés parce que c'est de la surprise, c'est de l'inattendu. La peur que l'on éprouve pourrait également, eh bien, aussi signifier le trouble que cela cause à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre raison, dans nos sentiments, dans la manière peut-être de négocier cette situation inattendue, qui quelquefois dégénère par la panique. Et c'est terrible, la panique. C'est affreux, parce que là, nous perdons le contrôle de tout. Et ça peut être grave. Il y a ce que nous pouvons nous générer, inspirer la peur à autrui. Parce que nous pouvons, même si nous ne sommes pas des loups, et que nous ne sommes pas finalement des êtres redoutables, nous pouvons quelquefois, d'une façon ou d'une autre, eh bien inspirer à autrui la peur, par l'épouvante. Qu'est-ce que nous racontons? Qu'est-ce que nous disons? Le comportement terrorisé, pétrifié, où les gens, eh bien, sont complètement, eh bien là, impossible de maîtriser. Il y a les manifestations de la peur, c'est-à-dire trembler, oui, blêmir. Ça peut arriver, hein. Vous savez, quelquefois, ça nous est arrivé où on est tout blême, on est tout blanc, hein, naturellement. On le dit dans une expression, mourir de peur. On va pas mourir, mais on va mourir de peur quand même. Parce que là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui atteignait notre vie, la source de notre vie, la vie profonde, la stupeur. Oh, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait comment réagir à tout cela. Et puis, il y a après le caractère, qui est différent des uns et des autres. Hein, il y a des gens qui sont peut-être peureux, mais qui jouent les bravaches, qui disent « on va y aller », etc., etc. Il y a les téméraires. Mais il y a le caractère peureux que nous retrouvons souvent dans le milieu chrétien, comme parmi tous les hommes, craintif. La crainte, c'est déjà l'avant-garde, ce qui vient avant, l'inquiétude dont Jésus nous parle. Pourquoi vous inquiétez? Regardez les oiseaux, regardez les fleurs des champs, les timides, qui sont toujours enfermés comme dans une prison, comme dans captifs, hein, parce qu'ils sont timides, hein, ils ne sont pas affranchis dans leur personnalité, c'est terrible. Et puis il y a le caractère peureux qui va jusqu'à la lâcheté, de savoir ce qu'il faut faire et on ne le fait pas, et même au risque de voir des choses qui sont déshonorantes. Il y a un proverbe qui est issu d'un écrit de Beaumarchais, hein, Les Noces de Figaro. Il dit ceci: quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur. Eh oui. Et je pense que nous le verrons dans le déroulement de notre méditation. Vous verrez que c'est quelque chose qui peut nous prendre, c'est quelque chose que nous pouvons pas toujours être conscients et qui nous emporte. La peur. Je répète, hein, quand on cède à la peur du mal, on ressent donc déjà le mal de la peur. Donc la peur est un mal. La Bible nous parle de la peur, mais elle nous parle de la foi. Elle nous parle de l'antidote. Et parfois, et c'est vrai, il faut le dire, parfois cette peur, même si nous la considérons comme un mal, peut être préservatrice d'un plus grand danger qui nous attend. Hein, on le sait très bien, on le vit tous les jours. Hein. Il vaut mieux s'arrêter au feu rouge, vous comprenez, pour vous et pour les autres. Et il y a dans Job cette parole que je voudrais citer parce qu'elle fait partie justement des éléments essentiels de notre méditation. Dans Job chapitre 3, il dit « Mais si j'éprouve une crainte, elle se réalise. » Oui, si j'éprouve une crainte, elle se réalise. « Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Et je ne peux finalement devant cela que faire. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, nous dit Job. » Vous connaissez ce texte, hein? C'est quelque chose que nous avons l'habitude de lire. Et dans une prolongation d'une traduction plutôt moderne, il est dit « Je ne connais plus ni tranquillité, ni paix, ni repos, je suis assailli de tourments. » C'est ça justement ce que nous pouvons peut-être éprouver parfois. Alors, nous allons chercher maintenant un refuge contre la peur, l'antidote, la délivrance, une libération de ce qui nous est tellement propre. Et vous savez que la première peur, nous la trouvons dans le jardin d'Éden. Dieu appela et il eut peur. Adam eut peur. Peur de qui? Peur de quoi? Ben, il a eu peur de Dieu. Or, nous n'avons pas à avoir peur de Dieu et nous allons le démontrer ce matin. On a beaucoup plus peur de Dieu que finalement peut-être tout le reste. Mais nous allons apprendre ce matin que Dieu est venu nous guérir de nos peurs, d'abord premièrement de lui-même, et puis de tout son environnement, de toute cette création, parce que l'environnement quelquefois n'est pas forcément toujours très positif. Alors, nous allons voir ce refuge en quoi il correspond contre les peurs, contre la peur. Alors nous allons tourner une première page dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 26. Et là, je pense que c'est quand même un traitement qui est intéressant de prendre en considération, où il est dit cette parole. C'est une forme de poème, hein, mais on va lire verset 26, Ésaïe, verset 26, verset 1er, en ce jour. On chantera ce cantique dans le pays de Juda. Et la déclaration qui est faite, hein, parce que c'est déjà une déclaration de victoire, hein, nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Dieu nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Et, le verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, à toujours. Car l'Éternel est le rocher des siècles. J'isole le verset 3, quand il est dit celui à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Voilà la guérison. Voilà un premier élément de réflexion pour la guérison. Les peurs incontrôlées, parce que c'est difficile, il faut le dire, hein, je pense que ça convient tout à fait dans cette expression, ont le pouvoir de pourrir, excusez-moi, de paralyser, d'anéantir nos énergies spirituelles et morales. Vous le savez, ça nous le savons tous, je le répète, le pouvoir d'annihiler, le pouvoir de paralyser notre existence de chrétien. Et je dis bien notre existence de chrétien parce que ça va bien au-delà. Finalement, parmi les hommes du monde entier qui ne sont peut-être pas croyants, qui ne sont peut-être pas chrétiens ou disciples de Jésus-Christ, c'est universel. Mais moi, je m'adresse à des frères et des sœurs, à des chrétiens, parce que la peur, c'est ça. C'est un mal et c'est un poison qui est issu directement du jardin d'Éden. Et les hommes l'ont traîné depuis toujours. Ils l'ont traîné à travers les générations et c'est quelque chose de tout à fait particulier parce que c'est communicateur. La peur est contagieuse. En présence d'un état de danger, en présence d'une idée qui est véhiculée, qui est jetée comme ça dans la nature, en raison peut-être finalement de tout ce qui peut être dit et raconté. Vous savez que notre société d'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles que nous avons, eh bien c'est pas forcément eh bien réjouissant, hein. Parce que lorsque nous sommes bombardés, c'est le mot, n'ayons pas peur du mot, bombardés par toutes les informations qui nous arrivent d'ici, de là, de ceci, de cela, etc., etc., eh bien on se dit, quel avenir et quelle incertitude pour le lendemain. Mais bon, on nous parle finalement de tellement d'une société de dépression, une société dépressive où on a enlevé l'espérance, le cœur même de l'espérance. Où on nous parle de mort en continuellement. On nous parle, et toute la cinématographie ne parle aussi que de meurtre, de crime, de toutes ces choses qui sont abominables. Alors je ne vais pas vous faire pleurer et vous faire sortir de la salle prématurément, mais quand même c'est le monde dans lequel nous sommes, hein. C'est pas vrai ça? Si nous avons un temps soit peu de prendre des informations et ceci et cela, ben nous apprenons que tout ça, c'est bien triste. Alors ça c'est la peur, elle est contagieuse et elle se transmet d'une manière insidieuse, d'une manière tellement, elle est instillée dans nos pensées, dans nos consciences et dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos âmes, et on s'en aperçoit pas. Et le monde est un monde qui tremble quelque part. Donc c'est un état, c'est pas quelque chose d'occasionnel, c'est un état. Alors il y a les gens foutistes qui se disent on verra bien demain, oui d'accord c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas peur non plus, parce qu'en le disant c'est qu'ils confessent quelque part. Et puis, il y a ceux qui ne vivent plus. Il y a ceux qui se sont arrêtés de vivre en disant « ben c'est plus la peine, nous sommes en suspension, dans un monde qui est en déliquescence, un monde qui se dégrade, un monde en flamme. » Oui, parce que c'est ça. Alors si on parle de flamme, on peut parler d'enfer aussi. Mais la Bible a un autre langage. Vous avez remarqué combien de fois l'Écriture sainte dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, dans les paroles de Jésus et même de ses disciples, combien nous sommes encouragés à être rassurés. N'ayez pas peur, ne craignez rien, que votre cœur ne s'alarme point, que notre cœur, eh bien là, ne se trouble point, parce que finalement, croyez en Dieu et croyez en moi, ça revient, et ça revient toujours. Nécessité pour nous de contrer finalement cette marée noire qui est déferlante sur le monde, et de pouvoir dire, eh bien Seigneur, c'est bien toi qui as raison, et moi je ne veux pas me laisser emporter par les mauvaises nouvelles. Je ne veux pas me laisser emporter peut-être par quelque chose qui me touche profondément, ou peut-être derrière il y a un arrêt de mort, naturellement, humainement parlant. Vous savez, c'est Dieu qui maîtrise notre vie. Hein. C'est lui qui a le début et la fin de notre vie. Alors, et puis bien d'autres choses. Lorsque nous entendons et que nous voyons là, et bien dans les informations, ces vagues de gens qui n'ont pas de travail, ceux qui veulent rentrer peut-être dans nos pays occidentaux en disant « mais là-bas c'est l'Eldorado », etc., et la déception va être grande. Hein. Et ceci et cela, hein. On fait marcher le monde, on le fait naviguer, mais on le fait pas naviguer dans du positif, on le fait naviguer dans un océan délétère de mensonges. Je vais me faire mettre en prison, moi. Mais, et puis de toutes sortes de choses semblables. Mais la Bible nous parle positivement. Elle nous dit d'espérer. Elle nous dit n'aie pas peur. Elle nous dit regarde à moi, les yeux fixés sur Jésus, et puis bien d'autres choses comme ça. Vous êtes d'accord? Ah bon? Alors. Je disais qu'elles étaient contagieuses, naturellement, ces peurs. Devant un état de danger ou une idée de risque possible, réel ou imaginaire, qui génère cette anxiété. Et pourquoi les gens, quelquefois, sont à cran? Pourquoi ils sont méchants? Pourquoi ils sont injurieux? Pourquoi ils se défendent? Pourquoi ils sont agressifs? À cause de la peur. On le voit, par exemple, dans la conduite automobile. On peut être très doux quand on marche sur le trottoir, mais à partir du moment où là, nous sommes au volant de notre voiture et puis qu'il y a des infractions qui nous menacent nous-mêmes, on peut bondir, non? Ça vous est jamais arrivé? Moi, ma femme, quelquefois, me le dit, calme-toi. Et heureusement qu'elle est là. L'affolement. Et il y en a un qui exploite ça avec délectation, c'est l'adversaire. Il se dit, notre branche gentil chrétien qui est toujours très calme, qui est doux, etc., etc. Je vais le piquer à un moment donné. Et puis, il y arrive quelquefois, où ça peut nous arriver de nous mettre en colère et puis de dire des choses qu'il ne faut pas dire, que nous regrettons en disant, mais non, il faut que je revienne un petit peu. Parce que nous avons eu peur. Oui, parce que nous sommes quelquefois provoqués par la peur. Donc l'adversaire. Il y a cette traduction toujours dans Ésaïe chapitre 26 que nous trouvons dans une version moderne. Tes dispositions sont fermes. Toi, Seigneur, tu le gardes, le chrétien, en paix, car il te fait confiance. C'est une permanence. C'est quelque chose qu'il nous faut demander tous les jours dans nos prières. Seigneur, renouvelle ma foi, rafraîchis ma foi. Ressource ma foi, donne-moi plus de foi aujourd'hui que j'en ai eu hier, donne-moi de te faire confiance. Et dans le prophète Ésaïe, chapitre 30, verset 15, un autre verset que vous connaissez, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre paix. Autre traduction, la paix et la douceur, la quiétude et la confiance. Eh oui, Seigneur, donne-moi d'être ce que tu désires. Vous avez vu Jésus, mis à part l'événement au temple de Jérusalem, de cette colère divine, de cette colère sainte de Jésus. Mais Jésus s'est jamais laissé dépasser par la peur. Hein. Quand on a voulu le saisir, quand on a voulu mettre la main sur lui d'une manière ou d'une autre, Jésus est resté dans le calme de Dieu et de la foi en Dieu, de la délivrance en Dieu. Quoi qu'il en soit, il nous donne l'exemple de la perfection finalement, devant ce problème qui est la peur. Notre peur, nos peurs. Si j'ose le dire, mes frères et sœurs, je vous dirais que, et le mot est fort, le mot est provocateur pour le monde, le mot est terrible, je dirais que la peur, c'est le cancer de nos âmes. Avec tout ce que cela peut véhiculer dans notre pensée de ce que peut représenter le cancer, les métastases, la prolifération qui est insidieuse, à travers toutes les conséquences que ça peut avoir, et la douleur, et la souffrance. La peur, c'est le cancer de nos âmes. Et ça rend malade. Et vous dire que ça rend malade réellement. Quand nous y passons, quand mes frères et mes sœurs vous y passez, ça nous met dans des états, mais terribles. de souffrance, voire même quelquefois de recherche de culpabilité de choses qui n'existent pas. Pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi, Seigneur, cette peur? Pourquoi je ne dors pas la nuit? Pourquoi je ne dors pas le jour? Pourquoi je suis troublé? Pourquoi, quelquefois, eh bien, ça me dépasse et je me désespère? La peur. Maintenant, je vais aller aux choses positives. L'étude de la Bible nous livre quelque part l'hymne triomphal de la grâce de Dieu sur la peur et pour en être libéré. Et nous allons ouvrir un autre passage, et là, moi je me suis délecté en préparant ce message, parce que je me dis, mais Seigneur, c'est ça ce que je veux vivre. Ça m'arrive d'avoir peur, hein? Parce que je ne dis pas les choses en disant, bah oui, moi je suis au-dessus des autres, ça m'arrive d'avoir peur. Ça m'arrive quelquefois de passer par des moments qui sont des moments de peur, de ceci ou de cela, d'une façon ou d'une autre. Et ça, moi je ne veux pas laisser la place à la peur dans ma vie. Parce que ça va me, excusez-moi, je vais être un peu grossier, mais ça me bousille. Moi, je peux plus rien faire quand c'est comme ça. Même pas prêcher. Si je laisse la peur me dominer. Et vous, c'est vrai pour vous également. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de la dangerosité de la peur. Alors, je vous ai parlé d'un hymne triomphal. Et on va le lire ensemble parce que moi, je crois que c'est un des plus beaux textes de la Bible. Et je vous dis, Romains, chapitre 8. Versets 28 à 39. Alors on va revenir dessus parce qu'il y a des choses qui sont quand même extraordinaires, me semble-t-il. Et quand j'ai redécouvert ce texte, hein, c'était pendant les vacances, surtout envoyez-moi en vacances parce que j'ai plein d'idées. Mais toujours est-il que quand j'ai redécouvert ça, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai besoin véritablement de revoir ça et j'ai eu à cœur de vous le donner et de le partager avec vous. Hein. Alors Romains chapitre 8, c'est Paul hein, qui en est l'auteur, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et là, nous rentrons dans le vif du sujet. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les enfants de Dieu, les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim? La nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, dit Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il y a là tous les ingrédients pour avoir peur. Écoutez bien, si nous prenons le texte, peur de la tribulation, peur d'être dans l'angoisse, mais la peur c'est déjà l'angoisse à un autre niveau, peur de la persécution, peur de manquer de nourriture, peur de nous retrouver sans toi et dans la nullité, peur du péril, peur de l'épée, de la guerre, eh oui, peur de la mort, peur de la vie, peur des anges, des dominations, des choses présentes et des choses à venir, l'avenir qui est tellement sombre, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Alors, vous avez tous les ingrédients là, ici, maintenant, hein, qui sont résumés d'une manière, sommaire, mais ils sont là. Le traitement divin de nos peurs au moyen de la foi que nous voulons aussi appeler la confiance en Dieu. Espère en Dieu. Nous espérons toujours dans le Seigneur, nous espérons les uns et les autres, autrement nous ne serions pas là. Mais dans les choses pratiques et dans les choses occasionnelles ou dans les choses qui font notre vie, quelquefois nous prenons des sacrées peurs. Parce que nous ne sommes pas autrement que les autres hommes, à la différence que notre espérance, elle est en Jésus. C'est sûr. Le traitement, et je le rappelle, le traitement divin de nos peurs au moyen de la foi, dans une chose que nous savons, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est le cœur. C'est le sanctuaire. C'est le lieu très saint, l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que si nous perdons de vue que Dieu nous a aimés, que Dieu nous aime et que Dieu nous aimera jusqu'au bout, alors à ce moment, vous avez la clé pour ouvrir la porte. Il est parlé de porte. Ouvrez-nous la porte de la cité. On l'a vu dans Ésaïe tout à l'heure, chapitre 26. Quelle était cette cité forte et redoutable dans laquelle nous ne craignons rien? C'est l'amour de Dieu. Ne doutez aucun instant que Dieu vous aime. Il vous aime. Il nous aime, chacun d'entre nous. Autrement, nous ne serions pas là. Ah oui, ça c'est clair. Et que nous, en retour, petitement, certainement, faiblement, évidemment, eh bien, nous aimons en retour le Seigneur. Mais nous ne pourrons jamais l'aimer comme lui nous aime. Il est notre Père, nous sommes ses fils et ses filles, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et il y a un lien d'amour entre nous, l'amour de Dieu. Eh oui. Je voudrais le symboliser par ces deux images. L'amour de notre Dieu, l'amour de Dieu est un bouclier. Vous savez ce que c'est qu'un bouclier ? Protection. C'est pas une arme offensive, c'est une arme défensive. Et dans le monde dont nous venons de parler, avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons ressentir, appréhender, réel ou imaginaire, le bouclier. Prenez le bouclier de la foi contre lequel, eh bien, viendra s'éteindre tous les traits enflammés du malin. Connaissez Paul, Éphésiens, chapitre 6. L'amour de Dieu est un bouclier, mais c'est aussi une forteresse invincible. Pour ça que j'avais cherché le thème de Ésaïe 26, où il est question d'une cité. Et l'apôtre Paul le dira d'une manière tout à fait significative, parce qu'au verset 38, et je le relis si vous voulez, « Car, dira-t-il, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. » Vous avez remarqué, il dira que j'ai l'assurance que ni ceci et cela, et vous pouvez mettre la liste autant que vous voulez, parce que de toute façon c'est absolu. C'est absolu. C'est une protection, nous dit l'apôtre Paul, qui vient surenchérir à cette notion d'amour de Dieu pour nous, puisque nous sommes aimés de lui. C'est une protection qu'aucun ennemi sur la terre et dans le ciel, ni sur la terre, ni dans le ciel, dans les cieux, ne pourra jamais anéantir. Et s'il y a une chose dans laquelle nous devons nous barricader, si c'est le mot, mais que nous devons nous renforcer, c'est que, Seigneur, dans ma prière, donne-moi de croire toujours de plus en plus à ton amour. Quand ça va bien, mais surtout, j'en ai besoin, quand ça va mal. Je crois que malgré tout ça, malgré mes fautes, malgré mes erreurs que je peux commettre, eh bien, tu ne sais jamais, finalement, eh bien, de m'aimer. Vous savez, le père du fils prodigue, quand il est arrivé, il lui a pas dit avant que tu rentres à la maison, on va inspecter tes vêtements pour savoir ce que tu en as fait, ou là où tu as été traîné dans la boue. Il n'a pas dit, je voudrais bien savoir, parce qu'on va faire expertiser par un comptable, eh bien, toutes les dépenses que tu as pu faire, et ceci et cela. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a pris son fils, il l'a embrassé, qui est la marque de l'amour. Reviens à la maison, je t'attendais. Et mes frères et mes sœurs qui quelquefois marchaient de travers, parce que ça peut arriver, les fautes, les choses dans lesquelles vous vous débattez, vous avez du mal à vous en sortir, mais vous revenez à la maison, le Seigneur est là pour vous aider. Est-ce que c'est lui qui crée encore la repentance? C'est lui qui crée encore de bonnes dispositions, il crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ne vous éloignez pas de la maison, parce que Dieu continue à vous aimer. Et Dieu aime quelquefois, et certainement, moi je pense, même tous ceux qui sont autour de nous, il les aime parce qu'il a déjà donné Jésus pour eux, mais c'est la différence, c'est qu'ils n'y croient pas. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Mais Dieu aime le monde, même comme il est, parce qu'autrement Jésus ne serait pas venu. Il dit que Jésus est mort pour les hommes du monde entier. Alors à combien plus fort pour raison pour son Église, pour ce que nous sommes. Vous allez me dire, c'est trop facile de dire ça. Mais excusez-moi, c'est peut-être trop facile, mais c'est quand même évangélique. C'est avant tout évangélique. Dieu nous aime. Il n'aime pas ce que l'on fait ou ce que l'on pense, mais il nous aime, nous, en personne. Différence. C'est comme avec nos enfants, quelquefois, leur comportement, leurs paroles, et ça ne nous plaît pas toujours. Mais ils restent toujours nos enfants. Hein. Et on les aime pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont nos enfants. On n'aime pas ce qu'ils font. Quand c'est comme ça, priez donc que pour ce qu'ils font, et que ce qu'ils disent, ou leur comportement, eh bien Dieu les transforme, et après ils redeviendront finalement ce qu'ils doivent être. Tout simplement. Alors, il y a trois preuves qui nous montrent qu'aucun ennemi ne pourra atteindre les enfants de Dieu lorsqu'ils font confiance à Dieu et que Dieu va leur demander de leur donner de surmonter leur peur. Trois preuves à l'appui. Écoutez bien. Premièrement, si Dieu est devenu notre allié, notre père, notre conseiller, notre soutien, il est devenu tout pour nous, je l'ai mis sous le mot allié, peut-il être notre adversaire? La question, elle est là. S'il est avec nous, sera-t-il contre nous? C'est le texte qui nous est donné dans le verset 31, quand il est dit « Mais que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que vous avez quelquefois pensé que Dieu pouvait être contre vous? Il n'est peut-être pas pour ce que vous faites et ce que vous dites et votre comportement, mais néanmoins, il n'est pas contre nous. Il y a chose que Dieu désire, c'est que nous nous repentions et que nous revenions à lui. Ça, c'est ce qu'il veut. Et c'est son but. Et c'est son but. Et vous savez pourquoi il va le faire? Parce qu'il vous aime. Tout simplement. Autrement, s'il ne nous aimait pas, il dira, bah, débrouille-toi donc et tu verras ce qui va t'arriver. Non, c'est parce que Dieu nous aime. Si Dieu est pour nous, et si vous croyez que Dieu est pour vous, dans une vie normale, alors qui sera contre vous? Pourquoi avez-vous peur de l'ennemi? Pourquoi avez-vous peur de ceci et cela? Pourquoi avons-nous peur? Il est notre allié, il n'est pas notre opposant. La deuxième preuve, c'est que si Dieu nous a donné le plus, comment ne pourrait-il pas ou ne voudrait-il pas nous donner le moins? Écoutez le plus. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, c'est-à-dire qu'il a donné le nex plus ultra. Il a donné ce qu'il pouvait y avoir, selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, c'est ce qu'il y avait de plus grand, de plus beau, et il n'y a pas de mots pour dire ce que la relation qu'il pouvait y avoir entre Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. Il n'y a pas de mots, c'est ineffable. Alors s'il a donné le plus, eh bien il va nous donner le moins, et le moins c'est pour nous. Le moins c'est la santé, le moins c'est sa bénédiction, le moins c'est du travail, le moins c'est véritablement notre épanouissement de vie de chrétien et tout ce que nous avons besoin sentimentalement, économiquement, matériellement, psychologiquement, spirituellement, ça c'est le moins, puisqu'il a donné le plus. Il n'a pas épargné. Il l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Parce que tout ce que nous pouvons avoir, nous l'avons en Jésus-Christ. En Christ, c'est dans une meurtrissure que nous sommes guéris. Entre autres. Première preuve, allié, pas notre adversaire. Deuxième preuve, le plus, il nous donnera le moins. Troisième preuve, si Dieu est notre suprême avocat, ça vous rappelle quelque chose? Qui accusera et qui nous condamnera? Alors on va le voir, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Écoutez, formidable, il intercède pour nous. N'oublions jamais ceci, que nous avons auprès de Dieu Jésus-Christ le juste, le véritable avocat qui intercède pour nous. Et on intercède pour des coupables, non? C'est parce qu'il y a là une culpabilité avérée ou non, mais on va déférer un avocat pour prendre la défense de celui qui est accusé. Or, nous sommes accusables en permanence, à tel point que même le livre de l'Apocalypse, que notre ennemi, eh bien, l'adversaire est l'accusateur des frères, et ça crépite de tous les côtés, hein. Même si vous bougez pas, il vous accuse quand même. Ben, ne pas bouger, justement. Donc, encore trois raisons, si vous voulez, je vais les transformer avec un autre nom, encore trois preuves de son secours indéfectible à notre foi défaillante. C'est que premièrement, il est mort. Il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Une. Ça, c'est le nec plus ultra, c'est le plus. Donner sa vie pour ceux qui ne méritent pas de vivre, pour qu'ils aient la vie. Il est mort. Ensuite, il est ressuscité. La croix du calvaire, comme je le disais, je crois, vendredi soir, c'est le côté sombre, finalement, pour le salut de l'humanité. La résurrection, c'est le côté lumineux. C'est les deux parties de la pièce, si vous voulez, hein, recto verso. C'est le côté lumineux. Non seulement il est mort, et on sait pourquoi il est mort, il n'est pas mort pour rien, il est mort pour moi, il est mort pour nous. Ensuite, il est ressuscité, l'éclat et le jaillissement de lumière universelle. La résurrection, c'est la victoire de la vie sur la mort. Et il nous est dit qu'il est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire que c'est la plus haute autorité. C'est la plus grande seigneurie et suprématie qu'il puisse avoir. Elle n'existe pas sur la terre, mais elle existe dans le ciel. Et vous savez pour qui? Pour toi, pour moi, pour les chacun d'entre nous. Vous rendez compte un peu cette instance qui est céleste? Pour notre défense. Pour que nous n'ayons plus peur. Et quand nous avons peur, que nous soyons secourus de la peur. Et puis il nous est dit, il intercède pour nous, il prie. Vous savez que nous ne sommes pas tout seuls dans nos luttes. Savez-vous que lorsque nous sommes dans combat, en dualité, en conflit moral ou spirituel avec nous-mêmes ou avec les autres, il y a quelqu'un d'invisible qui prie pour que nous soyons victorieux. Il intercède pour toi. Tu as pensé que tu étais tout seul? Tu n'as pas compris le sens de la Bible et de la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui intercède auprès du trône de miséricorde, du trône de la grâce pour dire « Seigneur, aide-le, aide-la, secours-le, secours-la, il va être victorieux. » Parce que nous sommes victorieux par l'intercession de Jésus. Nos mots sont tellement fragiles, tellement faibles, tellement en deçà de ce qu'il faudrait. Mais vous savez que si nous n'avons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, il nous est dit le Saint-Esprit par des murmures inexprimables. Il y a des trésors dans la Bible, vous croyez, non? Des choses extraordinaires dont nous possédons, vous pourriez dire, mais je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci, Dieu m'a oublié dans ceci. Mais nous avons tout, finalement. Mais il faut le connaître, il faut le savoir et il faut le vivre. Pour nous. Qui nous séparera? Puisqu'il était question d'une autre question, il était question, en d'autres termes, qui nous arrachera? Qui va nous déraciner, si nous prenons l'image d'un arbre, devant les défis les plus inouïs et les plus tragiques. Alors nous l'avons à travers le verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ, serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de nous, en prenant un texte du message de l'évangile, de l'Ancien Testament. Et là nous avons quelque chose de tout à fait particulier, parce que nous touchons du doigt ce que je pourrais appeler le sceau royal et céleste qui relie Dieu, c'est-à-dire Christ, Dieu et Christ, à nous. C'est ce mot que nous avons cité tout à l'heure, l'amour de Dieu en ce qui concerne chacun et chacune d'entre nous. L'amour de Christ. Son amour se manifeste pour notre faiblesse ou dans notre faiblesse. Et c'est bien dit, selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met tous les jours, finalement, les épreuves, les difficultés, les afflictions et tout ce que nous pourrons finalement et bien connaître. Mais une chose, c'est que c'est à cause de l'amour de Jésus que Dieu intervient. Et je vais terminer tout simplement, la conclusion serait la suivante, elle est brève, elle est simple. Alors qu'est-ce qu'un vainqueur? Puisqu'il nous est question de vaincre dans tout cela. Qu'est-ce qu'un vainqueur? Qu'est-ce qu'un vainqueur à votre avis? C'est celui qui... Eh bien là, va remporter un match ou les choses comme ça. J'ai pas eu les données là de ce qui s'est passé hier soir à Cardiff, mais enfin bon, on verra ça un peu plus tard. Hein, on s'est fait dépouiller ou on s'est fait glorieusement... Bon, voilà, je comprends à peu près à travers les clins d'œil que vous me faites que ça n'a pas tellement bien marché. Mais peu importe, ça c'est très très secondaire. Ouais, parce que nous sommes engagés dans un autre match nous pour nous. Hein. Alors qu'est-ce qu'un vainqueur? Vainqueur de toutes les menaces et de tous les dangers. Vainqueur de nos peurs. Vainqueur principalement de ce que nous pouvons connaître sur le sujet que nous sommes en train de débattre. Qu'est-ce que la peur? Les incidences de la peur dans notre vie, les incidences de la peur dans notre vie de chrétien, les menaces que causent les détériorations, la fragilité ou la fragilisation de notre foi, de notre confiance en Dieu. Peur de quoi? Peur de vivre? Peur de mourir? Il y a les deux. On est dans ces eaux-là, en quelque sorte. Le verset 37 reprend et nous donne la solution. Mais cette coordination dans les deux phrases, mais dans toutes ces choses, nous les avons vues ces choses, l'angoisse, la peur, le péril, la faim, la nudité, etc. Mais dans toutes ces choses, nous sommes, écoutez bien, parce que ça c'est le thème, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il est question de l'amour. Par celui qui nous a aimés. Le secret ici est voilé. Simplement, vainqueur, davantage. L'apôtre Paul ne va pas se contenter de dire « vous êtes des vainqueurs » parce que votre foi a surmonté votre peur, vos craintes, vos angoisses, vos anxiétés, mais parce que moi je voudrais vous dire qu'il y a encore davantage, davantage, parce que le texte que Paul met devant nos yeux et souligne, c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que. Il y a là en quelque sorte un superlatif. Quelque chose qui va beaucoup plus loin que la pensée naturelle de ce que nous pouvons donner une explication au mot vainqueur, mais que nous sommes plus que vainqueurs. Et sa raison d'être est d'y croire. Je dis bien, raison d'être plus que vainqueur, parce que ça c'est la norme du chrétien, et d'y croire. Et en raison d'une chose, parce que par celui qui nous a aimés. La force qui nous donne de surmonter toutes ces terreurs, toutes ces choses que nous appelons la peur, qui nous paralysent, c'est parce que nous savons que nous avons été aimés et que nous sommes aujourd'hui aimés et que nous serons, je le répète, aimés pour toujours. Vous savez, l'amour bannit la crainte. Hein. Vous connaissez ces gens qui disent ça hein, dans son épître. L'amour, la foi, bannit la crainte. Et je pense qu'il faut savoir que il y a quelqu'un qui est avec nous. On l'a dit, on l'a répété. Alors je voudrais donner une simple explication maintenant, très brève, de ce que Paul veut nous dire que nous sommes plus que vainqueurs. Un vainqueur, si vous me permettez, est quelqu'un qui par la foi prend la victoire sur le mal, sur les circonstances ou les conditions de sa vie. Voilà. Je parle dans ce domaine moral, dans ce domaine spirituel. Oui, c'est ça un vainqueur. C'est ce que nous avons l'habitude, c'est ce que nous chantons dans nos cantiques, hein, le vainqueur. Donc, il prend, par la foi, cette victoire. Le mal, circonstances et conditions de vie, il les domine. Il va, par la grâce de Dieu, par la force que Dieu va lui donner, il les domine, et en prend le contrôle. C'est-à-dire qu'il ne va pas se laisser dériver en disant, ben maintenant tout est fini, c'est terminé. Hein. Non, c'est l'histoire de Jaïrus qui enverrait contre tout, à travers tous les obstacles qu'il va avoir, pour eh bien atteindre son fils qui est, sa fille plutôt, qui est non seulement mourante mais qui est morte réellement. Avec tout ce qu'il va entendre, il va prendre le contrôle finalement sur ses émotions. Il va prendre le contrôle sur les contretemps. Il va prendre le contrôle sur la raison humaine. Il va prendre le contrôle sur le sentiment lorsqu'il va voir tout le monde pleurer dans sa maison. Lui, il a eu le contrôle de tout ça. Mais Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Hein. Nous connaissons ces textes naturellement. Dans ce monde, un vainqueur est celui qui lutte, passez-moi l'expression, mais haut et sans, on peut le dire comme ça si vous voulez, pour gagner la bataille. Mais est-ce que c'est une vraie bataille? Est-ce que c'est une vraie victoire plutôt? Est-ce que ce n'est pas une demi-victoire lorsque nous voyons le vainqueur qui va se mettre complètement à mal pour aller jusqu'au bout? C'est vrai, ça c'est le monde. Mais spirituellement parlant, quand Jésus nous dit « mais vous êtes plus que vainqueurs », spirituellement parlant, Paul parle d'une autre victoire à remporter et même à être plus que vainqueur. Et ça, ça nous concerne ce matin. Plus que vainqueur, parce que c'est un combat qui est gagné sans avoir à nous battre, figurez-vous. Alors là, c'est déconcertant, ça vous met complètement par terre, oui. Sans avoir à nous battre, ou à nous débattre, ou à nous épuiser, voire même à nous déchirer seulement, simplement, en croyant, entendez par là, par la foi, que Jésus a déjà remporté le combat pour nous en lieu et place. Et c'est ça la foi. Le Seigneur nous dit, reste tranquille, abandonne-toi, laisse-moi faire. Mercredi dernier, nous avons évoqué le tout accompli des dernières paroles testamentaires à la croix quand Jésus nous dit, mais tout est accompli. Alors faut savoir si Jésus a tout accompli ou s'il n'en a fait que la moitié. Et souvent, nous pensons qu'il n'en a fait que la moitié et nous voulons faire le reste. Et ça, ce sont des œuvres charnelles et ce sont des œuvres mortes, puisque Jésus a dit que tout est accompli. Ça, c'est difficile à rentrer dans notre tête. Hein. Et que ça descende dans notre cœur, c'est pas évident. Hein. Parce que la foi, c'est un abandon. La foi, c'est laisser faire à Dieu, parce que si c'est moi qui le fais, Dieu ne fera rien. Mais si c'est Dieu qui fait, alors il fera tout. Et il fera tout jusqu'au bout. Ça va? Je parle encore... Ça va? Non, c'est... Non, parce qu'on peut toujours dire, on peut toujours dire, j'ai tout compris, mais maintenant il faut le vivre. C'est ça la question. Vous savez, toutes les démarches religieuses où les gens veulent faire ceci, ils veulent faire cela, ils veulent gagner leur ciel, ils veulent monter au ciel. Mais ça ne sert à rien. Oh là là, heureusement que je suis plus sous la réforme, hein, parce que là, il m'aurait passé au bûcher, coupé en petits morceaux. Hein. C'est par la foi que nous sommes sauvés, par la grâce de Dieu, sans nos efforts et nos mérites. C'est tout simplement en faisant confiance au Seigneur, il a tout fait. Eh oui, plus que vainqueur, sans nous battre, en croyant que Jésus lui a remporté la victoire. Ce qui fait l'assurance indestructible et indéfectible de l'apôtre Paul, quand il nous dit ces mots, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, je passe, hein, et au verset 37, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous avez remarqué, manifesté en Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu passe par Jésus-Christ. Il ne passe pas par une dénomination religieuse, hein. Il ne passe pas par une tradition religieuse ou une philosophie religieuse. Et toutes sortes de choses. Non, l'amour du Père passe par la personne de Jésus en qui j'ai mis toute mon espérance, toute mon inconfiance complète et totale. Dieu a aimé Jésus-Christ, c'est toute l'histoire de la Bible qui nous est dit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Dieu, le Père, et Jésus-Christ, le Fils, nous a aimés au point de mourir pour nous sauver. Ça, c'est acquis. Le Père et le Fils nous ont rendus capables de croire à leur amour. C'est le témoignage de l'Évangile. Ça, c'est le Nouveau Testament. Et à notre tour, nous aimons par la foi le Père et le Fils, dont rien ne pourra nous séparer. Alors la question de vérité, pour chacun est celle-ci, je vous le donne, pourquoi avez-vous peur? Et je recommence. Pourquoi avez-vous peur? Puisque nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. J'ai pas voulu faire de la théologie ce matin, hein, parce que c'est quelquefois un peu barbant. Mais une chose qui est certaine, ce sont des vérités fondamentales et essentielles du message de l'Évangile. Et c'est ça ce que nous avons besoin. Vous savez, Jésus faisait pas de la théologie, il aurait pu en dire davantage, hein. Non. Il a dit des choses qui touchent le cœur et qui pénètrent, parce que il sait très bien que dans le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui, il y a de grands besoins. Et un besoin récurrent, un drame terrible, un mal, un cancer, comme nous l'avons dit, c'est la peur. Jésus dira à ses disciples dans la barque, mais pourquoi avez-vous peur? Puisque je suis avec vous. Oui. Croyez en moi. Mettez votre confiance. Jésus leur parla et il leur dit, c'est moi. C'est le texte, hein, je m'en souviens, c'est le texte dans l'Évangile. Croyez en moi parce que c'est moi. Si c'est Jésus qui le dit, alors à ce moment-là, Seigneur, délivre-nous de nos craintes et de nos peurs. Délivre-nous de ce qui pourrit notre vie, de ce qui nous angoisse, ce qui nous empêche d'avoir, eh bien, toute la dimension, toute l'énergie nécessaire dans notre vie spirituelle et dans notre vie morale, parce que nous avons peur, et il y a un exploiteur de cette affaire. Hein, vous le savez, on l'a dit. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, car qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu que Dieu a manifesté dans son Fils Jésus? Moi, je crois en Dieu et je crois en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas étonné, non? Bon, alors que Dieu nous bénisse, on va prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta parole, parce que là, à travers les écrits de l'apôtre Paul, il y a un trésor extraordinaire pour notre bien-être, pour notre sécurité, pour notre guérison morale et psychologique, pour notre avancement spirituel. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que pour nous, nous croyons, Seigneur, que Christ est notre ami, il est notre allié. Il est notre défenseur. Il est celui, Seigneur, qui intercède pour chacun d'entre nous. Seigneur, je veux, Seigneur, me faire le porte-parole et puis tous nous sommes, en effet, Seigneur, à te le demander ce matin. Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de mes craintes et de mes peurs, de mes inquiétudes et de mes tracas. Délivre-moi de mes anxiétés et de mes angoisses qui peuvent souvent me perturber. Mais donne-moi de regarder à toi. Je te demande que par ton esprit, tu passes dans les rangs maintenant. Parce que nous nous reconnaissons d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, à travers, Seigneur, ce simple message, mais nous voulons te remercier et te bénir de ce que, en effet, ta parole répond à nos préoccupations, et qui ne peut-être pas eu peur cette semaine, qui n'a pas eu une frayeur, qui n'a pas eu, Seigneur, des tremblements, peut-être des angoisses, mais Seigneur, dans le nom de Jésus, c'est bien humain tout cela, et tu n'es pas venu nous condamner parce que nous avons peur, tu es venu nous dire que tu voulais nous délivrer de nos peurs. Seigneur, tu nous bénis maintenant. Tu nous fais du bien, Seigneur. Et moi, je te demande d'augmenter notre foi, d'augmenter notre confiance en toi, et de puiser, Seigneur, dans les sources et les ressources inépuisables de ta parole, toutes les promesses tellement merveilleuses, positives, extraordinaires, que tu nous laisses au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.